Bonjour, c'est une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Marie Chartron et Laurent Polleret vous racontent l'histoire d'une insurgée permanente. Première femme journaliste, écrivaine engagée, collaboratrice de Jules Vallès, Dreyfusarde, Séverine aura marqué son époque. Née le 27 avril 1855 à Paris, elle nous quitte à 73 ans le 24 avril 1929 à Pierrefonds. Caroline Rémy, de son vrai nom, est une journaliste libertaire et féministe française. « C'est une rude femme », dira Clémenceau. Toute sa vie, Séverine a mis sa plume au service de la lutte contre les injustices. Avec les pauvres, toujours, malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes, malgré leurs crimes, écrira-t-elle le 30 janvier 1887 dans Le Cri du Peuple, dont elle est devenue la directrice. Cette héritière des femmes remarquables de la Commune, comme Louise Michel, Elisabeth Mitrieff ou Nathalie Lemel, lira toujours féminisme et lutte du prolétariat et soutiendra jusqu'à sa mort toutes les causes de l'émancipation humaine. Le 9 décembre 1897, avec Marguerite Durand, Séverine fonde le premier journal féministe, La Fronde, qui paraîtra quotidiennement de 1897 à 1903. 90 ans après sa mort, Séverine conserve encore toute sa part de mystère.
Elle vient de partir. Je la regarde s'éloigner. Elle a pris congé sur le perron des Trois Marches. Elle a traversé le petit jardin parsemé de fleurs de toutes les couleurs que j'entretiens avec soin. À l'angle de la fenêtre, je me suis assise dans le fauteuil profond aux accoudoirs usés où je passe l'essentiel de mon temps. J'imagine ses pensées. Morose. Elle est venue, jeune journaliste, solliciter ma confession. Je ne sais si j'ai bien fait mon métier, et même j'en doute, en comparant le rêve au résultat. Mais ce dont je suis certaine, c'est de m'y être dépensée toute, chair et âme. J'ai, devant la table, le papier, l'encre, le même contentement qu'au début. Je ressens les mêmes indignations juvéniles devant l'injustice. L'écriture m'est, comme au premier jour, non pas une servitude à quoi s'astreint la pensée, mais l'échappatoire du cri, du vivat, de l'invective, du sifflet moqueur, du rire triomphant. Les blasés, chez nous, m'inspirent de la stupeur, presque de la pitié.
Séverine, une journaliste debout. Marie Chartron, Laurent Polleret.
Ce matin, au jardin des Tuileries, dans la travée centrale, il y a des enfants qui passent, Paul Couturiot. Et on s'est donné rendez-vous ici aussi parce que c'était le lieu pour Séverine de l'enfance et de la liberté.
Exactement, c'est ici qu'elle venait jouer. Il y avait le guignol qui était pas loin où elle venait faire la claque. Elle disait qu'elle faisait la claque parce que c'était son meilleur public. Applaudir, rire, entraîner les autres derrière elle. Et bon, les enfants qui étaient peut-être plus passifs se libéraient à son exemple. Et parce qu'elle était déjà passionnée, c'est le gardien du jardin qui la connaissait bien, lui criait « Tu finiras sur l'échafaud ». Voilà, alors elle n'a pas fini sur l'échafaud. Et là même, son dernier combat, ça a été pour éviter la mort à certains, Sacco et Vanzetti. Séverine s'appelait Caroline Rémy. À la naissance, elle est née rue du Helder le 27 avril 1855, qui est une rue qui se trouve près du boulevard de Gand, à deux pas de Tortoni, qui était le restaurant où se retrouvaient tous les journalistes, qui est assez amusant parce que bien plus tard, elle sera la première femme à y entrer en tant que journaliste. Ses parents étaient des petits bourgeois moyens, pas fortuné, mais suffisamment quand même pour entretenir une gouvernante, pour pouvoir entretenir aussi la grand-mère maternelle de Séverine, enfin de Caroline à l'époque. Et elle venait passer beaucoup de temps ici dans ce jardin des Tuileries où elle jouait déjà les redresseurs de tort, puisque quand une petite carteronne se faisait maltraiter, elle n'hésitait pas à faire le coup de poing. Et en discutant avec ce marionnettiste, elle lui a demandé ce qui était le plus important dans la vie. Sa grand-mère lui avait dit que c'était le devoir. Et lui, lui a dit, c'est la justice. Et ça, c'est une leçon qu'elle n'oubliera jamais. C'est assez curieux parce qu'elle parle beaucoup plus de son père, qui est un être assez froid, d'après l'image qu'elle en donne dans l'hymne, qu'on va trouver plus généreux dans une image qu'elle en donnera beaucoup plus tard. Et sa mère est souvent absente des descriptions. Elle en parle très peu, alors que on apprend qu'elle était quand même passionnée par le théâtre. Donc c'est un peu comme si le père et la chape des responsabilités avaient éteint l'enthousiasme chez ces gens, sauf la grand-mère. Et c'est sûr que Séverine avait l'impression de vivre enfermée dans une cage. D'ailleurs, elle dit que les serins de sa mère lui ressemblent. Et eux aussi vivent en cage, seulement eux, ils ont des ailes.
Le grand-père, dont le menton pique comme une vieille brosse et qui ne rit jamais, même en effigie, je ne suis point charmée de le voir apparaître. Voici bien son visage, glabre, aux lèvres dures, hautement colleté de noir, son aspect solennel et inexorable, le pater familias, le maître redouté, l'empêcheur de s'aimer en rond à la bonne franquette, petits et grands. Il ne parlait pas, il édictait. Il ne s'asseyait pas, il siégeait.
Toute petite déjà, elle aimerait faire du théâtre, elle aimerait écrire, elle aimerait être journaliste. Tous ces mondes qui lui sont interdits par ses parents, parce que on ne fait pas ça.
Oui, ce qui est amusant, c'est qu'on a l'impression qu'elle est allée vraiment à l'encontre de tout ce qu'on lui avait inculqué. Il lui était interdit d'aller à la fenêtre du salon, parce que de là, elle aurait pu voir l'une des grandes comédiennes de l'époque sortir de chez elle avec ses beaux atours, et ça aurait pu lui donner des idées de luxe et des idées de théâtre. Elle ne pouvait pas aller à une autre fenêtre, parce que là, on avait vu sur Tortoni, et elle aurait pu voir les journalistes, et ça lui aurait peut-être aussi donné des idées d'écriture. Or, le journal était quasiment interdit pour elle. Tout ce qu'elle pouvait en lire, c'était le feuilleton scientifique. Sinon, tout le reste, c'était hors de sa portée. Et en définitive, elle est allée à l'adolescence vers le théâtre en tant que comédienne, beaucoup plus tard, à la fin de sa vie, en tant que dramaturge, puisqu'elle s'essayera à l'écriture dramatique. Et entre les deux, elle se donnera à fond complètement au journalisme. Et là, elle sera vraiment, je pense, un modèle pour les journalistes de son temps et même pour les journalistes d'aujourd'hui.
Il y a un événement qui est fondateur dans le récit de son enfance, c'est la fuite pendant la Commune en 1871. Paul Couturiot.
Oui, effectivement, parce que les parents ont... petits bourgeois paniquaient à l'approche des communards, à la proximité des communards, donc ils ont décidé de filer à Versailles, puisque en 1870, l'ennemi, c'était plus les Prussiens, c'était les Parisiens. Ses parents étaient terrorisés en passant les barrages. Ils l'avaient caché dans une carriole en dessous d'un châle de la mer. Elle bouge, les communards demandent « Mais vous avez quoi là-dedans ? C'est un animal ?» Et elle sort en éclatant de rire, parce que elle, la situation, elle la trouve cocasse. Le vilain communard dit « Allez, on n'est pas méchant, les 30 sous. » Et au moment où la carriole reprend, il lui lance « Allez, ne lâche rien, ne lâche rien. » C'est une leçon qu'elle n'oubliera pas, un conseil qu'elle n'oubliera pas, elle ne lâchera jamais rien tout au long de sa vie.
Nous voilà dehors, mais les parents sont tout de même furieux. On a appelé maman la mère, comme si elle vendait de la ragounias ou de la marée. Et on a traité mon oncle de vieux ramolli. Ma bonne amie, les Prussiens, nous sommes sauvés. C'est à cela que je pense, tandis que nous roulons vers Charenton. Le pont est devenu le point de repère de la bonne société des environs. C'est la partie à la mode. Depuis 2 jours, on va voir brûler Paris. Pour tromper l'ennui du voyage, on parle de ce qui se passe là-bas. Des officiers de chasseurs enduits de pétrole et brûlés vifs, comme au temps de Néron. Des femmes de sergents de ville mises en avant des bataillons de fédérés pour servir d'écran aux balles ennemies. Des blessés communeux sous les dos de vie pour être ramenés au massacre. Des blessés versailleux achevés à petits coups par d'immondes furies qui saupoudrent les plaies vives avec du tabac et du poivre, afin que la souffrance soit plus aiguë et le martyr plus long. Et toi, tu ne dis rien, ça te laisse froide, ça, hein ? Ah non, cela ne me laisse pas froide. J'ai les yeux qui brûlent et le cœur qui bat. Mais si je le dégonflais, ce petit cœur tout frissonnant dans ma poitrine de fillette, vous seriez trop surpris et trop courroucé. Bourgeois qui m'avez élevé pour que je sois semblable à vous, pour que je fasse honneur à la famille et à la race. Mais je ne puis dire cela.
Séverine a la chance d'habiter un quartier extrêmement vivant, ce qu'on appelle le quartier du Croissant.
Jean-Yves Mollier.
C'est-à-dire le quartier dans lequel étaient implantées la plupart des imprimeries des journaux. C'est donc un Paris dans lequel on entend tous les cris de Paris, à la fois les petits métiers, les vendeurs ou les vendeuses de quatre saisons, mais également les camelots, ceux qui vendent du papelard, comme on disait, c'est-à-dire qui vendent le journal en édition matinale ou en édition en fin d'après-midi, et qui dans la journée, entre l'édition du matin et l'édition du soir des journaux, vendent n'importe quel papier, des brochures, des chansons. Alors c'est aussi un Paris dans lequel il y a beaucoup de chanteurs populaires. Un Paris extrêmement animé, très coloré. Si on sort un peu de ce quartier, si on va en rive gauche, puis ensuite en rive droite, il faut se rappeler que c'est un Paris qui s'est considérablement transformé pendant tout le Second Empire. C'est ce qu'on appelle le Paris du baron Haussmann. Le baron Haussmann, le préfet de la Seine, a effectivement transpercé Paris en créant d'immenses avenues qui vont du nord au sud et certaines autres d'est en ouest. On y a installé des casernes pour à la fois pouvoir contrôler la ville. Et puis, on a véritablement supprimé des centaines d'immeubles qu'on appellerait des taudis. On a chassé tout le petit peuple de Paris qui habitait l'île de la Cité, qui habitait dans le cœur de Paris. On l'a refoulé vers les 11e, 19e, 20e arrondissements. Et puis tout l'ouest parisien est devenu véritablement les quartiers de la grande bourgeoisie. Donc au fond, Séverine, elle est dans un entre-deux, un Paris populaire dans lequel il y a encore des ouvriers, des employés, des petites gens qui côtoient évidemment des Parisiens beaucoup plus fortunés. Un Paris où on entend beaucoup de bruit, et je dirais également un Paris où l'on sent les odeurs du marché, évidemment, les odeurs de la rue. Un Paris qui, quand même, pour l'essentiel, a disparu. On le retrouve sur les cartes postales, on le retrouve dans un certain nombre de chansons.
Séverine a, dans les premiers temps de sa vie, connu des conditions assez compliquées.
Christiane Douillère de Melenard.
Elle était une petite fille très fantasque, très imaginative, un peu rebelle. Et ses parents, sans doute pour se prémunir contre d'éventuelles incartades, l'ont mariée très jeune. À 16 ans et demi, ils l'ont fait épouser, un mariage arrangé, tout à fait classique à cette époque-là. Un monsieur qui s'est révélé être un compagnon extrêmement brutal et intéressé. Donc, elle a très mal vécu sa nuit de noces, elle l'a vécu comme un viol. Ils ont eu un enfant, mais très vite, le couple a battu de l'aile et elle a récupérer sa liberté en demandant la séparation de corps, puisque à ce moment-là, le divorce n'existe plus. Il a existé sous la Révolution, il ne sera rétabli qu'en 1885 par la loi Naquet. Elle se retrouve libre, mais seule, devant gagner sa vie, donc elle fait des petits travaux de couture, de broderie, de dessin, des cours de dessin, et elle trouve finalement une place chez une riche bourgeoise qui habite à Neuilly, Madame Guébard, qui cherche une demoiselle de compagnie pour une femme qui ait une certaine culture, qui puisse l'accompagner dans ses voyages, au théâtre, au spectacle. Elle prend la place et elle se sent assez bien dans ce milieu-là. Et Madame Guébard a un fils, Adrien, qui est un beau jeune homme, qui étudiant en médecine, qui tombe amoureux de Caroline. Et entre eux se lie une liaison secrète, puisque normalement, elle est quand même, aux yeux de la loi, toujours mariée à son premier mari. Et un enfant s'annonce qu'il faut, bien sûr, aller mettre au monde dans le secret, et ils partent à Bruxelles. Là, elle met son enfant au monde, qui est déclaré du nom du père et de mère non dénommé. Il fréquente, avec Adrien, la bonne société française qui est à Bruxelles. Et là, donc, elle est invitée à une soirée où elle rencontre Vallès. Et ils sympathisent. Elle l'écoute bien. Lui, il est très content, finalement, de raconter ses histoires à une jeune femme qui est charmante, hein, qui plus est. Donc, ils vont sympathiser. Mais à ce moment-là, Jules Vallès ne peut pas encore être à Paris, puisqu'il est proscrit par la Commune. Enfin, il est parti en Angleterre après la Semaine sanglante. Il a réussi à échapper à la police des Versaillais, mais donc il s'est réfugié d'abord à Bruxelles, puis il est parti en Angleterre où il a passé quasiment 10 années d'exil. Donc après 1880, donc après l'amnistie complète, Vallès rentre à Paris, et là, c'est pareil, ils vont retomber l'un sur l'autre, si je puis dire, un petit peu par hasard. On organise une grande fête en l'honneur de Maxime Lisbonne, qui a été un membre de la commune tout à fait éminent, un militaire très courageux, qui a perdu une jambe dans les combats, et qui rentre à Paris sans moyens. Donc on décide de faire une grande fête pour lui venir en aide. Et à ce moment-là, Vallès se souvient de la petite dame qu'il avait rencontrée à Bruxelles, qui lui avait dit qu'elle voulait écrire, qu'elle avait des aspirations poétiques, qu'elle faisait du théâtre aussi en amateur. Donc il va lui demander de venir participer à cette représentation. Et puis après, les liens vont se resserrer de même, des liens amicaux bien entendu, pas des liens amoureux. Encore que c'est une histoire... C'est souvent une amitié amoureuse. On a l'impression qu'ils ont plus de 20 ans de différence, mais il y a entre eux une amitié filiale. Et certain que Vallès considère souvent Séverine comme sa fille. Il l'appelle ma belle enfant ou ma belle camarade. Et puis elle a aussi un sentiment un petit peu de fille à père pour cet homme-là.
Il y a deux temps. D'abord, c'est une petite collaboration comme ça, sans qui n'engage pas vraiment sa personne, ses idées. Elle l'aide à travailler ses textes. Et quand il lui demande plus, quand il parle de journalisme, là, c'est de nouveau la porte qui se ferme. Les parents qui mettent leur veto. Adrien pas. Adrien, lui, serait d'accord pour la laisser vivre librement, mais les parents mettent son veto. Elle va prendre un petit revolver, elle va se tirer dans le cœur, après avoir rédigé un mot à l'attention de Jules Vallès, disant « Je meurs de ce qui vous fait vivre, de révolte ». Bon, la balle est passée à côté du cœur, elle s'est ratée, et quand elle retrouvera la santé, plus personne n'osera lui dire non, et elle pourra commencer vraiment sa collaboration avec Jules Vallès, qui va l'emmener à Londres, et il va tout lui apprendre. Il va lui apprendre à faire tenir droit une idée bancale, il va lui donner un cœur de citoyenne et un cerveau de citoyen, dit-elle.
Parce que Vallès écrit de façon extrêmement désordonnée. C'est plutôt des notes qu'il jette sur le papier et des tas de petits bouts de papier dans tous les sens. Et effectivement, on pense que Séverine passait derrière pour remettre un peu les choses en structure, de façon un peu plus articulée. Parce que Vallès écrit au fil de la plume. La plume, c'est aussi fulgurant que sa pensée. Donc c'est parfois un peu illisible et un peu décousu.
Ah oui, enjôleux. Vieil enjôleux, qui trouve moyen de n'être jamais dans son tort, d'avoir éternellement raison, et de vous en persuader, qui mieux est. Tout de même, je ne serais qu'à demi convaincu si vous n'aviez prononcé un mot qui me clôt le bec pour de bon. L'intérêt du travail. Ce mot-là autorise toutes vos incartades et condamne toutes les miennes. Comme justesse, c'est contestable, mais comme truc, c'est très malin. Je vous rétorque l'argument et je vous engage, dans l'intérêt du travail, à ne pas trop me malmener. Autre chose, elle est jolie et juste, votre école qui vous a arraché tant de cris et qui m'a arraché tant de larmes. Était bien votre fée. Rappelez-vous ceci, jamais, jamais je ne saurais faire tenir une idée debout tant que je n'aurai pour la caler que vos mots boiteux et vos lignes bossues. Cette question de calligraphie qui vous fait hausser les épaules est pour moi comme une lumière dans une cave. Je vais à l'aveuglette et me cogne au sang jusqu'à ce que la clarté me guide et m'indique la route à suivre ou la besogne à faire. Et, nom d'un chien, vous l'avez dit vous-même, ce que je dis là, dans votre article d'étrenne en décembre dernier. La meilleure preuve que mon raisonnement est juste, c'est que le manuscrit est là, devant moi, bourré de fautes, truffé de répétitions, lardé de virgules fichues à tort et à travers, et que pas une minute, pas une, je ne me suis arrêtée à ces vétilles. Pourquoi ? Parce que j'ai suivi l'idée sans faire halte à chaque syllabe, sans tomber en arrêt devant chaque lettre, sans perdre à chaque seconde un temps précieux pendant lequel la pensée d'étaler et jouer des jambes.
Ça a été une rencontre vraiment fondamentale. Il lui a quand même tout appris.
Marie-Ève Terranti.
Elle lui portait ses papiers, elle rédigeait avec lui, elle allait dans les journaux, elle allait dans les cafés, elle était à l'imprimerie. Donc elle avait une vie très proche de la construction matérielle de la presse, et ça, les femmes n'y avaient pas accès. Donc il y a ça, il y a l'engagement social qu'elle apprend. Elle rompt avec une famille qui était une famille comme très bourgeoise, on voit bien, très limitée socialement. Bon, elle est mariée quasiment de force. Son père lui interdisait de lire les journaux. Enfin, c'est une rencontre fondamentale, c'est sûr. Mais il faut bien voir que, en fait, toutes les femmes journalistes de cette époque, du 19e siècle, toutes les grandes femmes journalistes sont arrivées à la presse par une rencontre à un moment ou à un autre avec un homme. Mais il ne faut pas voir ça comme une limitation de leur mérite. Il faut surtout comprendre que ça veut dire que c'était un milieu tellement fermé qu'il fallait avoir une sorte de Virgile pour vous guider.
Ses premiers pas de journaliste, Paul Couturiot, Séverine les fait au journal Le Cri du Peuple.
Oui.
Grande aventure dans laquelle elle se lance avec Jules Vallès en 1883. Leur collaboration a commencé en 1881 à peu près. En 1883, paraît le premier Cri du Peuple. À quoi ressemble le paysage de la presse à cette époque ?
À l'époque, la censure existait encore, et pour pouvoir fonder un journal, il fallait avoir des autorisations, et pour avoir ces autorisations, il fallait avoir un capital minimum. Donc elle démarre dans un contexte qui est difficile, parce que Jules Vallès est quand même très connoté, il est communard, même si on lui laisse une certaine latitude, il va rassembler autour de lui toutes les écoles du socialisme. Il veut que le cri du peuple soit la parole des pauvres, le cri du peuple, vraiment au sens littéral. Et donc il va rassembler autour de lui toutes les différentes écoles de socialisme. Et déjà à l'époque, on avait des meneurs d'idées, des politiciens qui étaient plus soucieux de leur carrière que du bien de ce peuple qu'ils défendaient. Et ça a créé beaucoup de tensions au sein du journal, parce que Vallès, lui, voulait que tout le monde puisse s'exprimer, même s'il y avait des désaccords. Et certains, comme Jules Guesde, qui était un sectaire vraiment à tout craint, lui ne voulait pas permettre ça. Il préférait que des pauvres meurent, parce que ça faisait des martyrs, plutôt qu'on ne leur tende un bout de pain. Il n'était pas du tout dans la même optique, et Séverine, elle, sera tout à fait dans l'optique de Jules Vallès.
Le journal s'installe dans l'hôtel Colbert, qui est dans le quartier de la presse.
C'est un immeuble assez sombre qui se trouve rue du Croissant, une rue célèbre, puisque c'est là que Jean Jaurès se fera assassiner. Et dans cette rue, il y avait des imprimeurs, il y avait différents journaux. C'était l'époque de L'Éclair, déjà du Figaro, Henri Rochefort, qui était une des grandes plumes de l'époque. Et Vallès voulait que les portes soient toujours ouvertes, de jour comme de nuit. Il tenait beaucoup à ce que les sans-abri aient un endroit où ils pouvaient venir s'abriter. Donc c'était pas juste dans ces colonnes qu'il défendait les pauvres, c'était vraiment dans des actes aussi insignifiants que celui-là. Jamais il leur demandait d'aller voir ailleurs. Séverine n'hésitait pas à partager éventuellement un morceau de pain avec eux quand elle montait. C'était une époque aussi où le journalisme était exclusivement masculin. Donc elle était la première journaliste à s'aventurer dans ce monde-là de manière aussi professionnelle. C'était pas simple. Et on jasait beaucoup sur ses cheveux blonds qui se mêlaient aux cheveux blancs de Jules Vallès, parce qu'on aime bien les ragots et on ne pouvait pas imaginer qu'une jeune femme aussi belle que Séverine, parce qu'elle était très belle quand elle était jeune, elle pouvait vraiment être mue par un amour du journalisme et par un engagement tout à fait personnel. Non, c'était la maîtresse de Vallès. Or, bon, il est vraiment établi que ça n'a jamais été le cas. Elle était très jalouse de lui, mais un peu comme une mère vintrace, comme elle disait, en référence au personnage de l'enfant et du bachelier et l'insurgé.
C'est là, au Cri du Peuple, que naît véritablement Séverine.
Oui, alors les deux premiers articles, et elle va les signer Séverin. Elle n'a pas encore... Déjà, elle veut préserver le nom de sa famille, puisqu'elle sait que son père ferait un ulcère si elle signait de son vrai nom. Donc, elle prend un pseudonyme, mais elle n'ose pas encore assumer sa féminité. Et c'est au troisième article qu'elle va écrire, qu'elle va ajouter ce petit « e » qui... donnera Séverine et qui va être vraiment un nom qui, à la fin du 19e siècle et début du 20e, sera l'une des plumes les plus respectées de son temps. Une plume qui lui ouvrira bien des portes quand elle quittera le cri du peuple. Parce que Jules Vallès va être présent pendant les deux premières années, mais très vite, sa vie d'exilé, ses problèmes de diabète vont avoir raison de sa santé. Il n'ira plus au journal, il écrira ses articles. Et puis, il sera usé par la vie. À 53 ans, il va mourir. Et Séverine va essayer à ce moment-là de prendre la direction du journal pour le faire vivre dans l'esprit que voulait Vallès. Mais il y a une telle guerre de clans, de clochers entre les différentes tendances, une telle mainmise de Jules Guest, que ce sera un vrai combat pour elle, pour réussir à faire entendre et à faire vivre l'esprit de Jules Vallès.
Séverine, 30 ans, quelle patronne de presse est-elle ?
Pendant plusieurs mois, elle va se battre pour maintenir la marque que Vallès avait imprimée à ce journal. Elle veut continuer exactement dans la même ligne, que ce soit une maison ouverte à toutes les tendances du socialisme. Mais elle a des algarades sans cesse avec Jules Guest, ça se passe très très mal entre eux. Lui, il veut en faire un journal plus politique dans sa ligne à lui. C'est une rupture de la ligne politique du journal, complètement. Guest, c'est un radical. Puis il veut récupérer le journal au profit de son propre parti, qui est le Parti ouvrier, et ce qu'elle ne veut pas faire. Elle ne veut pas que le journal, soit le cri du peuple, soit inféodé à un seul parti. C'est toujours ce que voulait Vallès.
Et alors, de quelle manière imprime-t-elle sa marque ?
Elle va continuer à essayer de le diriger, elle va leur tenir tête, se battre contre eux, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et à un moment, elle est obligée d'abandonner et de lâcher.
Ce n'est pas la dernière fois que je vous parle, mes chers amis de l'atelier ou de l'usine, mes camarades du faubourg. Ce n'est pas la dernière fois non plus que je parle de vous. Mais c'est la dernière fois que je prends la parole au cri du peuple et que mon nom figure en tête de ce journal. Demain, je l'aurai quitté. Ce n'est pas une désertion. Le soldat qui s'arrête au milieu de la bataille, parce qu'il est vaincu, n'abandonne pas ses compagnons de lutte. Je commence à croire que je suis trop libertaire pour écrire jamais dans un journal d'école socialiste. J'aime l'indépendance de l'adversaire autant que la mienne propre. Je conçois que le cerveau du voisin ne soit pas moulé sur le mien. Nous sommes comme cela dans la famille. Vallès réclamait la liberté sans rivage et, sous la Commune, était le seul à protester contre la suppression du Figaro et du Gaulois. J'ai donc reçu de détestables enseignements et je m'y tiens. Or, ceux qui vont venir ici sont un parti de discipline. J'aurais jeté une note discordante dans un ensemble qu'ils désirent parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est l'école buissonnière de la Révolution. J'irai de droite ou de gauche, suivant les hasards de la vie, défendant toujours les idées qui me sont chères, mais les défendant seules, sans autre responsabilité que celle de ce qu'aura paraphé mon nom.
Séverine utilise de nombreux pseudonymes. Pourquoi ce choix d'un simple prénom, Séverine, Marie-Ève Terenti ?
Elle a commencé par utiliser un prénom masculin, c'est-à-dire que ses premiers articles, elle les a publiés avec le prénom de Séverin, avant de s'appeler Séverine. Là, elle utilisait une stratégie que les femmes journalistes ont souvent pratiquée, c'est celle de se poser en homme pour éviter justement d'être... d'être ostracisée dans le journal. Assez rapidement, elle a utilisé ce prénom de Séverine. Et c'est vrai que c'est assez étrange parce que l'utilisation du prénom, c'est plutôt quelque chose que faisaient les chroniqueuses. C'était se poser en femme. En fait, la plupart des journalistes qui voulaient parler politique, en fait, utilisaient nom-prénom plutôt que le prénom seul. Alors là, je pense qu'il y a vraiment une volonté de se poser, de pratiquer un journalisme de femme différent de celui des chroniqueuses, un journaliste de reporter femme, un journaliste qui utilise les qualités, les capacités présupposées pour les femmes, l'émotion, par exemple, la sensibilité, se poser en femme. Elle utilisait beaucoup de pseudonymes. Par exemple, elle utilisait les pseudonymes de Jacqueline, René au féminin, toujours des prénoms féminins. Dans le Gaulois, René. Dans le Gil Blas, Jacqueline. En fait, elle utilisait aussi les pseudonymes parce qu'elle intervenait dans plusieurs journaux. Elle avait aussi cette stratégie qui était une stratégie complètement neuve qu'elle a décidé d'utiliser à partir du moment où elle est sortie du cri du peuple. Cette stratégie, c'était de participer à plusieurs journaux sans s'occuper de leur ligne politique. Donc elle a même été ainsi dans la libre parole de Drummond, alors qu'évidemment elle pouvait pas partager les positions très très à droite de Drummond. Mais elle avait décidé qu'elle irait dans tous les journaux, quelle que soit leur couleur politique, à condition qu'elle lui laisse effectivement une certaine liberté. Donc le fait d'avoir deux pseudonymes différents, ça permettait un peu de cacher qu'elle était en fait, à certains moments, parfois dans quatre journaux quotidiens, à la même époque, en même temps. Elle occupe, alors ça c'est la première fois qu'une femme occupe cette place, elle occupe la place, dans la plupart des journaux, la place prioritaire, hein. Elle est sur la colonne de droite du journal, en haut, à la place d'honneur, là où on avait avant l'éditorial, le premier pari dans les journaux d'opinion. Donc c'est une place qui est extrêmement visible, et donc c'est une personnalité publique. Son nom est connu, elle est représentée en peinture par Renoir, il y a un portrait de Séverine au musée d'Orsay. Enfin, il faut voir que c'est une personnalité qui est publique, et donc elle est très souvent aussi attaquée dans des scandales, par Henri Rochefort par exemple. Elle a des surnoms, enfin, c'est vraiment une personnalité centrale à la Belle Époque, qui connaît tout ce système médiatique, hein, dans cette France fin de siècle, où finalement on a des journaux quand même qui tirent à 1 million d'exemplaires. Hein. Ce sont des médias qui sont beaucoup plus forts qu'aujourd'hui.
En fait, tout change à ce moment-là. On est sur autre chose avec la starification aussi des journalistes et des publicistes où on va racheter des gens. Enfin voilà, c'est assez rigolo, une sorte de mercato.
Philippe Auriol.
Et avec des journaux qui sont vendus et qui sont annoncés avec des principes qui annoncent ce que sera la communication plus tard. Avec des opérations de street marketing absolument étonnantes, le journal qui est distribué gratuitement pendant une semaine aux gens dans la rue. Enfin voilà, c'est drôle, avec des calicots dans tout Paris, on ne disait pas encore des 4x3, etc. Enfin voilà, et elle fait partie effectivement des plumes que les journaux ont envie d'avoir. Donc elle est au journal, elle est à l'Écho de Paris, elle va passer par tous les grands journaux dits littéraires, c'est-à-dire avec des plumes qui sont des plumes. Et sans ligne politique, d'ailleurs, c'est très très drôle, on va avoir dans les mêmes journaux, et même à l'époque de l'affaire Dreyfus, des Séverine qui publient lundi, avec Barès qui publie mardi, avec Mirbeau qui publie mercredi, etc., etc. Et des journaux qui n'ont pas de ligne politique, même si, en fait, si on veut bien regarder, il y en a une sur le reste du journal. C'est un nom qui fait acheter le journal, et on en est là, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, c'est exactement la même chose que le football, faire du bénéfice. Et Séverine permet de faire du bénéfice. Donc voilà, même si elle n'en tire pas forcément tous les avantages.
Dans quelle lignée de journalistes s'inscrit-elle, Marie-Ève Terenti?
Il y avait des femmes journalistes avant Séverine, il y a eu des grandes femmes journalistes au XIXe siècle. Je pense qu'elles étaient avant Séverine de deux sortes. Il y avait des chroniqueuses d'une part et des publicistes d'autre part. Et que Séverine a inauguré quelque chose d'autre, hein, une lignée de femmes reporters, et c'était la première fois. Les chroniqueuses, je pense qu'on peut penser à Delphine de Girardin, hein, qui commence, grâce à son mari Émile de Girardin, à inaugurer la chronique parisienne en 1836 dans la presse. Alors elle, c'était plutôt ce qu'on appelle du journalisme assis, qui était tourné vers le foyer, vers l'intimité, vers les salons, qui par ce biais-là, réussissait quand même à parler de choses que les femmes ne pouvaient pas traiter dans le journal de manière ironique, oblique. Elle réussissait aussi à parler de politique, mais c'était toujours dans un deuxième temps et de manière détournée. Donc il y a cette première lignée-là, hein, les mondaines en fait. Et puis il y a une deuxième lignée de femmes journalistes, les publicistes. Alors elles sont encore moins nombreuses que les chroniqueuses. C'est George Sand, c'est Marie Dagou, c'est Juliette Adam. Elles ont une autre stratégie pour parler politique. Elles s'appuient justement sur le fait qu'elles n'avaient pas le droit de vote, le fait qu'elles n'avaient pas le droit d'être représentées à la Chambre, le fait qu'elles ne pouvaient pas assumer une place dans la vie publique. Et donc, elles se servaient de cette impossibilité pour se construire une légitimité autre, en disant, ben, donc, puisqu'on est à l'écart du champ politique, eh bien, on n'attend rien de la vie publique, rien du politique, et donc, nous sommes plus objectives. Et elles se sont construites comme ça une sorte de légitimité dans le champ. C'était aussi des femmes qui avaient un capital culturel, social, exceptionnel, un réseau. Et donc, elles ont joué sur des positions d'exceptionnalité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ces femmes-là ne revendiquaient pas le droit de vote pour toutes les femmes. Hein. Elles se posaient en exception. Et c'est comme ça qu'elles ont fondé leur droit à intervenir dans la politique. C'est pour ça que George Sand n'a jamais revendiqué le droit de vote des femmes, par exemple. Séverine va inventer autre chose. En fait, elle va dire, très bien, la part des femmes, c'est la sensualité, l'émotivité, le corps des femmes qui procréent, etc. Eh bien, justement, le journalisme, et notamment le journalisme de reportage, c'est un journaliste qui utilise un corps percevant, voyant sur le terrain. C'est le principe de la chose vue. Les reporters, à cette époque, préconisent de descendre dans la rue, d'aller dans les pays lointains et d'être toute observation, leur corps étant le médium enregistreur qui leur permet ensuite de revenir dans les rédactions pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Elle dit, ben très bien, mais les femmes, justement, ne sont que corps, c'est bien ce qu'on leur reproche. Donc, en fait, elle retourne le stigmate, elle prend le critère qui interdisait aux femmes d'être journalistes et elle en fait leur meilleure habilitation, en fait.
Pirouette rhétorique ou elle le pense vraiment ?
Non, je pense qu'elle le pense vraiment, elle le met en scène, elle le montre. Il faut bien voir que, effectivement, quand on regarde le reportage pratiqué par les hommes, pratiqué par un Vallès, par exemple, mais aussi par tous les reporters même encore dans les années 30, c'est bien effectivement des corps sensibles hein, qu'ils promènent sur le terrain, c'est bien des corps en danger, parce qu'il y a aussi cette idée, hein, c'est un corps qu'on expose, c'est bien ça d'ailleurs qui va provoquer une sorte de retournement de la représentation des journalistes, hein, qui au XIXe siècle, le journaliste n'était pas une fonction très valorisée dans la société. Hein. On pensait que, en fait, on les étiquetait comme des prostituées ou des eunuques, hein, des gens qui n'avaient pas été capables d'aller jusqu'au bout du geste qui constituait à faire des livres et à entrer en littérature. Des menteurs, des gens corrompus, il y avait toute une série de clichés qui entouraient la profession de journaliste. Avec le reportage, en fait, il y a une forme de retournement qui s'opère. La profession de reporter est valorisée. Le corps du reporter, il est exposé sur le terrain. Les reporters, d'ailleurs, commencent à mourir. Les reporters de guerre, notamment, commencent à mourir. On commence à faire la liste des martyrs du journalisme. Et donc, elle met en scène un corps émotif et aussi un corps exposé à plusieurs reprises. Par exemple, lorsqu'elle descend dans la mine à Saint-Étienne, elle montre bien qu'elle prend les mêmes risques que les hommes et que c'est bien un journalisme total de terrain qu'elle met en scène.
Elle revendique d'ailleurs sa peur.
La peur est un instrument de validation du reportage, comme le danger. Donc elle la met en scène. Elle va même un cran plus loin que les hommes dans cette pratique du journalisme, du corps exposé. On peut pas dire qu'elle invente, parce que c'était déjà pratiqué en Angleterre et peut-être qu'elle en avait entendu parler, mais elle pratique, peut-être quand même pour la première fois en France, un journalisme d'identification, qui va aussi avoir une longue presse, si j'ose dire. Un journalisme d'identification où finalement elle choisit de prendre la place du sujet dont elle va faire l'histoire. Et elle fait ça pour la première fois quand elle prend la place d'une gréviste lorsqu'elle fait une série d'articles sur les ouvrières du sucre en grève. Et donc elle va dans une usine et elle prend la place d'une gréviste et c'est depuis la position en fait de sujet éprouvant ce qu'elle raconte qu'elle commence son reportage.
L'idéal serait de passer ignoré, anonyme, si semblable à tous que nul ne vous soupçonna, si mêlé à la foule, si près de son cœur qu'on le sentit vraiment battre, rien qu'à poser la main sur sa propre poitrine. Flot incorporé dans l'océan, haleine confondue dans le grand souffle humain. C'est cela que j'ai fait. Presque une journée, mêlée à ces pauvres filles vêtues comme elles, j'ai erré sous l'œil des sergots devant l'usine déserte, dans la camaraderie morne de l'inhabituelle oisiveté. Je me suis arrêté à leurs étapes, j'ai entendu leurs doléances librement formulées, j'ai pénétré dans les usines, vu fonctionner le travail de celles qui s'étaient soumises, ayant trop d'enfants ou trop faim. Et c'est pourquoi je puis aujourd'hui vous dire, en toute connaissance, ce qu'est cette grève et combien elle mérite d'intérêt et de sympathie.
Comment vous la qualifieriez, cette plume de Séverine, Paul Couturiot ?
Je pense que sa plume a toujours été honnête. Elle a, par moments, forcé le trait pour faire passer des idées, parce qu'elle sait que les choses qui sont murmurées sont généralement mal entendues.
Elle avait des surnoms, Séverine. Parfois, on l'appelait Notre-Dame de l'alarme à l'œil, non ?
Notre-Dame de l'alarme à l'œil, mais oui, parce qu'elle était toujours à pleurer sur le sort des uns et des autres et à tendre la main, d'une certaine façon, à travers les pages de son journal. Donc, oui, mais elle ne s'en offusquait pas, elle le revendiquait même. C'était son côté sainte laïque. C'est ainsi qu'elle présentait Louise Michel, d'ailleurs, en disant que c'était une sainte laïque. Mais elle n'a jamais été à l'encontre de ses convictions, elle n'a jamais défendu des idées qui n'étaient pas profondément les siennes. Elle est allée vraiment jusqu'à se mettre en danger, c'est aussi en danger physiquement, pour défendre ses idées, son sens de la justice. Quand l'opéra comique a pris feu, il y a eu un nombre incalculable de victimes. Bon, ses confrères dans leur bureau écrivaient leurs papiers en rapportant les faits. Elle se disait, mais c'est pas possible, il y avait quand même des rideaux coupe-feu, il y avait des sorties de secours. Comment il a pu y avoir autant de victimes ? Donc, elle a demandé l'autorisation au préfet d'accompagner les pompiers. Et deux jours après l'incendie, alors qu'il y avait encore des risques d'effondrement, alors qu'il y avait aussi des risques d'émanation de gaz, etc., elle est entrée, elle a été voir partout et elle a compris. Son intention, c'était vraiment de trouver les responsables, de les dénoncer et de faire en sorte que les coupables payent et pas qu'une fois de plus, ben, ce soit les victimes qui en étaient pour leurs frais. Quand il va y avoir des coups de grisou à deux reprises, la première fois à Villebeuf, elle va aller sur place. Elle va demander au directeur du journal, elle ne travaille plus pour le Cri du Peuple à ce moment-là. Elle va aller à Villebeuf et elle va descendre dans la mine. Elle va voir les conditions de vie des mineurs. Elle va voir aussi toutes les promesses qui ont été faites pour améliorer ces conditions de vie lors de coups de grisou précédents et qui n'ont pas été tenues. Où va-t-elle écrire ces articles ? Pas dans un journal socialiste, au Gaulois, journal royaliste. Pourquoi ? Elle n'a pas du tout changé ses convictions, mais simplement parce que les lecteurs du Gaulois sont des gens qui ont de l'argent. Et elle va leur dire, mais si vous pouvez, aidez-les. Et elle va réunir des sommes importantes qu'elle va elle-même aller donner aux familles et toujours en tenant un compte de ce qu'elle donne. Il n'y a rien qui entre dans ses poches et à chaque fois, elle dénonce et elle demande de l'aide et elle demande que justice soit accordée à ces malheureuses ou à ces malheureux.
Pour fixer les esprits, il faut se souvenir qu'on est dans une phase de dépression, elle a commencé en 1873 et elle va continuer jusqu'en 1895. La misère est telle que des anarchistes comme Louise Michel sont favorables à la récupération individuelle, c'est-à-dire le fait qu'il y ait, par exemple, le pillage de boulangeries. Les anarchistes, avec le congrès de Londres en 1882, ont plaidé effectivement pour la politique de la récupération ou la politique, en quelque sorte, du vol, érigée d'une certaine manière en sorte de théorie, disons, palliative aux maux de la société. La violence est réelle. Les attentats anarchistes vont faire effectivement des morts. Et à chaque fois, il y a des vengeurs qui veulent venger l'anarchiste qui a été condamné à mort. Ravachol, Vaillant, Émile Henry, Caserio, on a là, entre 1892 et 1894, un déchaînement effroyable de violence. Il y a effectivement une misère très profonde dans le Paris que côtoie Séverine. Elle voit des pauvres, elle voit des gens qui mendient. À l'époque, le slogan des ouvriers, ils veulent gagner ce qu'ils appellent la thune par jour. Une thune, c'est une pièce de 5 francs. 5 francs, c'est à peu près 25 euros d'aujourd'hui. Pourquoi par jour? Parce qu'on est payé à la journée. On est encore payé ou à la tâche ou à la journée, rarement à la semaine et encore plus rarement au mois. Ça, ce sont des inventions du XXe siècle et même de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'est un Paris très misérable. Voilà un peu ce qu'est ce Paris de la Belle Époque, ce Paris qui fait réagir des femmes comme Séverine, qui effectivement ont décidé de consacrer, enfin de mettre leurs plumes au service des plus pauvres. Et c'est ça qui est admirable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exagération dans la peinture que nous propose Séverine. Bien sûr, elle prend fait et cause pour ceux qu'elle décrit, mais il n'y a pas d'exagération. Ces deux Paris existent.
Qu'a fait l'initiative humaine de l'homme pour l'homme? Rien, ou presque rien. Liberté, égalité, fraternité. Liberté de crever, oui. Quand l'outil à travail n'est plus bon à rien, de crever comme un chien, dont nul ne s'occupe. Égalité dans le trou, devant les vers qui ne demandent pas, eux, à la charogne, quelle furent sa fortune et son rang. Fraternité? Hélas. L'abolition de l'esclavage, voyez-vous, c'est la publication des droits de l'homme, des mots.
Philippe Auriol, vous êtes historien, auteur de plusieurs ouvrages sur l'affaire Dreyfus. Et Séverine sera l'une des seules femmes à couvrir tous les procès de l'affaire Dreyfus.
Oui, ce sera une des seules femmes à couvrir tous les procès de l'affaire Dreyfus. Maintenant, il y a pas mal de femmes, en fait, hein, qui sont engagées dans l'affaire quand même. Même si aujourd'hui, pour des raisons qu'on ne s'explique pas forcément ou qu'on s'explique trop bien... La mémoire, qui est un vrai problème français d'ailleurs, mémoire, histoire, n'a pas beaucoup retenu d'images féminines. Mais effectivement, enfin, il y a elle, et puis il y en a quelques autres qui sont moins visibles parce que Séverine avait quand même une célébrité antérieure et qu'elle est restée dans les mémoires. Mais il y a quelques autres femmes qui toutes d'ailleurs ou presque gravitaient autour de ce journal dont on reparlera sans doute, qui s'appelle La Fronde, et voilà, donc Marguerite Durand, mais aussi et surtout complètement oubliée et absolument passionnante, Bradamante, qui est un personnage incroyable. Voilà, mais Séverine, effectivement, fera son travail de Dreyfusarde et de reportrice tout au long de l'affaire, ouais. Et elle rendra compte de tous les procès, en fait.
Son moteur, au début, c'est plutôt le doute.
Déjà, elle est soucieuse de l'autre, qui est quelque chose qui est important. Donc en fait, elle, pour elle, à partir du moment où il y a de la souffrance, où il y a de l'injustice, etc., l'injustice est quelque chose qui la révolte absolument et qui l'a toujours révoltée. Ça a toujours été son moteur, dès l'époque de Vallès. Donc là, en fait, c'est à nouveau articulé. Donc ça, c'est clair. Maintenant, à côté de ça, le cas de Dreyfus, comme d'ailleurs pour beaucoup de Dreyfusards, ne l'intéresse pas particulièrement. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de sauver un homme. Il y a les souffrances de cet homme. Cet homme a été injustement condamné, il a été illégalement condamné, donc il faut faire quelque chose. Mais à côté de ça, l'idée pour elle, c'est une idée qui va beaucoup plus loin et qui d'ailleurs, à un moment, va complètement fracturer. Il va y avoir une sorte de schisme, hein, pratiquement, dans le camp Dreyfusard, entre ces gens. Et d'ailleurs, on a même tenté de distinguer, en fait, deux formes de dreyfusisme qui seraient les Dreyfusards et les dreyfusistes. D'accord? Bon, je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, là, on pourrait l'utiliser. Elle serait plus dreyfusiste que dreyfusarde. C'est-à-dire que le cas de Dreyfus ne l'intéresse pas tellement, mais en revanche, que dans une république qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui est la République, on puisse encore aujourd'hui fonctionner de cette manière, que le nationalisme puisse, etc., etc., que l'antisémitisme qui met les gens les uns contre les autres, qu'elle dénonce, même si elle est victime naturellement du préjugé, c'est quelque chose qui la révolte, et c'est ce qui fait qu'effectivement elle s'engage, quoi. En 1897, en rentrant à la Fronde, elle va devenir... Alors, le mot est terrible, le mot est pénible aujourd'hui parce que il crée une confusion, en fait, avec une autre réalité beaucoup plus contemporaine. Elle sera Dreyfusarde, mais très très tardivement, en fait, comme beaucoup de gens d'ailleurs. À ce moment-là, elle est révisionniste, c'est-à-dire qu'elle est pour la révision du procès Dreyfus, parce qu'elle part du principe que Dreyfus a été peut-être pas injustement condamné, mais en tout cas illégalement condamné, avec l'histoire du dossier secret qui a été soumis à l'insu de la défense et du prévenu, machin, etc., etc. Et ce n'est qu'en octobre 98 que là, elle, pour la première fois, elle écrira que Dreyfus est innocent. Mais avant cette période-là, en fait, elle l'est, si on veut, Dreyfusarde, puisqu'elle prend parti d'une façon très très claire dans les comptes rendus qu'elle fait du procès Esterhazy, etc., pour la nécessité de la révision du procès et qu'elle attaque les anti-Dreyfusards, mais à côté de ça, sur la question qui est celle de l'innocence, il faudra attendre assez longtemps pour qu'elle prenne position, comme d'ailleurs pour beaucoup de Dreyfusards, beaucoup sont révisionnistes qui deviendront Dreyfusards, à partir du moment où sera retrouvé le fameux faussaire, qui d'ailleurs est un lampiste, hein, c'est pas lui le vrai faussaire, bon, mais ça c'est une autre histoire, qui sera retrouvé, donc Henri, dans sa cellule, égorgé, le rasoir à la main, et où le faux ayant été avoué, beaucoup de révisionnistes se diront il n'est pas possible que des faux aient été commis, si des faux ont été commis, c'est qu'en fait Dreyfus est innocent. Donc là, ils passeront réellement de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est l'histoire de Séverine dans en dreyfusisme. La Fronde a eu pendant, en tout cas, toute la période de l'affaire Dreyfus, un succès important. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, le journal c'était un petit journal en fait, hein, qui avait cette particularité d'être un journal dans lequel n'intervenaient que des femmes de la conception à la vente. Et ce qui est un exemple assez unique dans l'histoire en général et dans l'histoire de la presse en particulier. Et le journal était très lu pour les fameuses notes d'une frondeuse, qui sont des articles quotidiens tout à fait étonnants avec ce style particulier qui fait que Séverine est Séverine. Ouais.
Réquisitoire de M. Von Cassel. La pluie qui tombe. Succès d'année du rapport Ravary à l'encontre du colonel Picard et vraiment fantaisie un peu bouffonne à l'égard de M. Émile Zola. Messieurs les jurés, un homme qui a écrit de nombreux romans, qui s'est fait une notoriété apparente. Ira-t-on plus loin ? Ira-t-on jusqu'à ce passage où M. Von Cassel, d'un air dégoûté, dit qu'après tout, les œuvres de M. Zola ne relevaient que de la littérature, et que la littérature elle-même ne relevait que de l'académie ? Accuse Zola, avide de renommée, d'avoir voulu se procurer le socle, le haussant au titre de grand homme qu'il assume aisément. Ceci est plaisant. Ce qu'il était moins, c'était d'entendre ce dégoulinement de gouttières sous le ciel gris. C'eût été du patagon si ce n'était du charabia. Cette fois, l'accusé a vraiment l'air de souffrir. S'il y avait eu de la flamme, de la passion, de l'injustice, de la révolte, de la colère, de l'indignation, un élan de fureur, un cri d'alarme, au moins, c'eût été de la bataille. Mais rien. Le néant, du macaroni qui file, de la guimauve qui se roule, s'enroule, se déroule, colle, poisse, glue entre les mains de l'opérateur, dompteur de serpents pour rhume.
Séverine collabore à La Fronde, le journal de Marguerite Durand, de 1897 à 1905, et elle a beaucoup défendu les femmes, leurs droits, parlé de leur corps, de leur droit à procréer ou non. Mais elle a des positions assez originales dans le féminisme, Marie-Ève Terenti.
Oui, alors surtout au début peut-être. Originale, oui, mais elle s'explique aussi par justement sa position de journaliste. Et je pense qu'au départ, elle était plutôt dans une position où elle défendait moins les droits civiques que les droits civils, en fait, et dans une position un peu d'exceptionnalité. Et dans ce cadre-là, dans un premier temps, elle défendait surtout les droits sociaux, l'obtention de certains droits sociaux comme l'accès des femmes aux carrières libérales, l'égalité des sexes au point de vue scientifique dans l'éducation. Elle militait aussi pour la prise en compte de la situation des femmes enceintes dans les ateliers, hein, des débats et des démarches très concrètes sur la possibilité de recherche de la paternité. Évidemment, elle a été une farouche avocate du droit des femmes à l'avortement. Ça, c'est vraiment fondamental dans son parcours. Elle explicite, à partir d'un fait divers assez sordide, les raisons qui lui font dire que l'avortement est un malheur, une fatalité, mais pas un crime. Donc elle est dans une position mesurée, mais elle explique bien que tant qu'il y aura par le monde des bâtards et des affamés, hein, c'est une citation, le drapeau de Malthus, taché du sang des infanticides avant la lettre, flottera sur ce troupeau d'Amazones rebelles qui, forcés par vos lois de tenir leur sein aride, ont le droit de garder leur flanc infécond.
Séverine est à la fronde, mais c'est vrai qu'elle n'a pas manifesté dès le premier abord des positions féministes toujours très tranchées, par exemple par rapport au droit de vote.
Annie Metz.
Elle n'est pas forcément Marguerite Durand non plus d'ailleurs dans les premières années, mais Séverine n'est pas une militante du droit de vote pour les femmes parce que elle est foncièrement quand même anti-parlementariste, donc pour elle le vote est un petit peu un leurre, enfin c'est une libertaire quand même. Donc le vote, estime que pour les hommes comme pour les femmes, c'est pas forcément le meilleur moyen de s'exprimer. Donc elle milite pas vraiment pour ça, et pourtant elle évolue. Marguerite Durand aussi évolue sur cette question du droit de vote des femmes. Et en 1914, c'est Séverine et Marguerite Durand sont sur la première ligne de la première grande manifestation féministe en France, manifestation de rue, alors qu'on connaît les manifestations des suffragettes anglaises. Donc on dit souvent que 1914, c'est une période d'âge d'or pour le féminisme français qui semble enfin avoir une unité. Et puis, malheureusement, la guerre va éclater très peu de temps après. Mais cette manifestation du 5 juillet 1914, elle est importante. Et c'est Séverine qui en a eu quand même l'initiative. Et cette manifestation, elle fait vraiment la une de tous les journaux. Et ça avait été organisé par le journal qui s'appelait Le Journal aussi. Enfin, entre Séverine ce journal qui s'appelait comme ça. Et ça a eu un écho vraiment fort dans la presse et dans l'opinion.
Le massacre des innocents. Ce mot a été jeté par je ne sais quel confrère au sujet de la femme Thomas, l'avorteuse des Batignolles. Il traduisait l'indignation de bon ton qui avait cours, alors, contre la sinistre mégère, sordide, sale, vieille, laide, qui arrivait en cour d'assises du sang caillé plein ses ongles noirs. De l'indignation, j'en ressentais aussi. Mais elle était d'essence moins distinguée. N'accablez pas cette femelle autant inconsciente que la poule qui boit ses œufs, que la chatte qui mange ses chatons, digne tout au plus de la répulsion et du dégoût. Que la société frappât cette propagatrice de stérilité, qui en faisait commerce, qui en tirait profit, rien de plus naturel. Elle contribuait à la dépopulation. Ruine des gouvernements. Enlever au canon leur cible, au sabre leur cuir à repasser, et le beau cuir humain qui fourbille et affûte, aux machines les bras qui les font mouvoir et que souvent même elles croquent en leur accès d'appétit. Évidemment, cette femme nuisait. Elle prêchait, provoquait, facilitait la grève des ventres, accessible au plaisir, fermée à la maternité. Alors que la maternité rapporte à l'État. Et que le plaisir lui coûte plutôt.
Quel héritage peut-elle avoir laissé, Séverine, Christiane Douillard de Melenard ?
Nous, femmes de notre époque, elle nous parle beaucoup. Un grand nombre de ses préoccupations sont les nôtres. Elle n'a peut-être pas été jusqu'au bout, mais on ne peut pas être indifférente à ce qu'elle défend. Dans son féminisme, dans son rôle de femme de presse, d'être journaliste, dans son amour des bêtes aussi, je reconnais que c'est quelque chose qui me touche beaucoup en elle. Le feu intérieur, d'élan extraordinaire. Cette femme, elle ne se laisse pas abattre, elle ne se laisse pas mettre sous le boisseau. Les femmes, elles sont à cette époque-là, elles sont tues. On les oblige à se taire, tandis qu'elle, elle parle. Elle parle des femmes, beaucoup.
Moi, je crois que son héritage, il est double. D'une part, il a sans doute montré à des femmes qui aspiraient à devenir journalistes, que ça valait la peine qu'on se batte, qu'il fallait s'attendre à prendre des coups et parfois en dessous de la ceinture, mais qu'on pouvait y arriver, on pouvait défendre des causes, on pouvait faire entendre sa voix, ben, qu'on pouvait faire ce métier en ayant un idéal et en ne cédant jamais aux compromissions, en étant toujours en accord avec soi-même.
Et la plupart des grandes journalistes françaises, en fait, ont emprunté beaucoup. André Violis, par exemple, la grande reporter, raconte très volontiers qu'elle s'est formée à l'école de Séverine, Simone Théry, sa fille encore. En fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pratiquement toutes les femmes journalistes, y compris Colette, vont revendiquer à un moment ou à un autre d'être dans la filiation de Séverine, parce que c'est la première femme journaliste professionnelle.
Séverine, une journaliste debout. Avec Marie-Ève Terranti, Paul Couturiot, Christiane Douillère de Melenard, Annie Metz, Philippe Auriol et Jean-Yves Mollier. Lecture, Virginie Aymon. Documentation, Anne-Lise Signoret et Anne Delaveau. Prise de son, Morgane Danan. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard. Attachée d'émission, Pascaline Bonnet. Un documentaire de Marie Chartron et Laurent Polleret.
Une vie, une œuvre, se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Une page préparée et enrichie avec amour et passion par toute une équipe, Pascaline Bonnet, Juliette Testa et Lucie Rebière. Et dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.